Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ferme les yeux. Et sonne. La porte s'est ouverte. Fin de la présentation et de la première époque. 1372 pages. 3 pages de résumé. Nous sommes le 24-12-2000, midi 25. Entracte. Voilà, j'ai fini la présentation et la première époque. Je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai écrit. C'est long, on ne sent pas les personnages ni l'histoire. Les scènes sont trop longues aussi et manquent de force. On ne sent rien, on ne comprend rien de tout ce foutoir. C'est de ma faute aussi, parce que j'ai choisi un sujet trop noir, dur, fort. Je me suis rendu compte qu'il était trop sombre pour en faire une série pour la radio. Alors j'ai voulu arrondir les angles pour que ce soit moins noir. Et ça ne marche pas bien. Et puis c'est difficile d'écrire une histoire où les héros sont tous horribles, sans moralité, où leur but c'est leur plaisir et l'argent. N'ont aucun sens moral, rien. En enlevant leur noirceur, en enlevant la noirceur de l'histoire, je l'ai rendue moins bonne. Je dois absolument la rendre sombre, même jusqu'à rendre nos héros ignobles. Ce ne sont pas des êtres, mais des machines à plaisir. Ce sont pourtant ces surhommes, ou plutôt ces personnes qui ont une intelligence au-dessus de la moyenne, mais qui se servent de leur intelligence sans moralité. Je crois qu'il y a des hommes qui sont plus intelligents que les autres, qui sont bien au-dessus des autres, parce qu'on a beau dire l'égalité dans la nature, ça n'existe pas. C'est l'homme qui l'a inventé. Pour cela, il a créé des lois pour que les gens vivent, se comportent comme il faut. Je suis pour les gens qui sont surdoués, qui sont durs et plus forts que les autres, parce qu'ils peuvent apporter des choses pour le bien des êtres humains. Leur intelligence peut apporter du bien, parce que ils sont plus intelligents que les autres, donc ils ont des idées plus fortes que les autres. Je suis contre qu'on empêche les gens qui sont plus intelligents que les autres, qu'on les empêche d'aller de l'avant sous prétexte d'égalité. Car une personne qui a une intelligence au-dessus de la moyenne, et même plus, si elle emploie son intelligence avec de la morale comme guide, son intelligence apporte plus à l'ensemble de l'humanité et donne un plus pour être plus heureux. Bien sûr, si une personne surintelligente se sert de son intelligence sans morale, cela peut mener à des catastrophes. C'est pour cela que les personnes qui sont surdoués doivent être aidés et on doit leur apprendre et leur donner la réflexion morale, mais une morale intelligente et sans prosélytisme quelconque, politique ou religieux, une morale simplement humaine pour les hommes. Les héros de cette histoire n'ont aucune morale. Pour la présentation, j'ai pas assez fait ressentir leur côté hors du commun, leur surintelligence et l'horreur de leur façon d'agir et de penser. Rien ne les arrête. Il faut qu'au développement, je revienne à l'origine de mon sujet, qui est de décrire une histoire de jeunes gens très intelligents qui vivent au-delà de la morale, mais qui ont comme circonstance atténuante d'être entouré de gens moyens qui eux aussi sont des monstres. C'est pour démontrer qu'il n'y a pas que chez les surdoués, les surhommes, que les monstres se trouvent. Il y en a dans toutes les catégories d'hommes, même chez les plus ploucs. Il y a plus de 20 ans, j'avais écrit, et vous avez dû entendre plus d'une fois, une petite histoire qui s'appelait « L'au-delà du commun ». Cette histoire, j'en avais eu l'idée, en partie, par une expérience et une rencontre que j'avais eue avec un dénommé Marc et Florent. Je dis bien « en partie », parce que l'histoire m'était déjà venue avant. Donc j'avais écrit cette petite histoire qui d'ailleurs n'a pas été développée ou sous-développée suffisamment. Il manquait des épisodes. Mais la fin est bonne et je l'ai écrite avec un peu d'humour. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui se croient plus forts et hors du commun et veulent vivre hors de la morale et de la société. C'était court, gai, même un peu bête, mais je l'aimais bien cette histoire. Je l'ai fait se passer dans les années 20, car j'aime beaucoup ces années. J'en ai fait quelques années après, l'avoir écrite, une émission de radio. Puis, en 2000, juillet 2000, j'en ai refait une autre adaptation pour cause de numérique, etc. Après avoir fait cette nouvelle adaptation, qui m'a donné beaucoup de plaisir et d'émotion, car ça m'a ramené de nombreuses années en arrière. J'ai lu par hasard un livre sur un fait divers des années 20, où deux jeunes gens, qui se croyaient des surhommes, Nietzsche et compagnie, ont fait des crimes horribles. Ils étaient sans morale, sans aucune moralité. J'ai été surpris. Mon histoire ressemblait à celle de ce fait divers, j'avais fait passer dans les années 20, par hasard, comme le fait divers. Et même type de personnage que mon histoire. Et lorsque j'ai écrit mon histoire 20 ans plus tôt, je ne le savais pas. J'avais écrit d'après des personnages de gens que j'avais connus et mon imagination. J'ai parlé dans une scène de Nietzsche, etc. Le personnage agissent et parlent, ont les mêmes idées et vivent la même époque que les vrais. Quelle coïncidence! Et je souhaitais, c'est que mon histoire soit plus longue et plus noire. Je me suis dit que je dois réécrire L'au-delà du commun, plus noir, plus vrai. J'ai fait un résumé, mais trop sombre, trop noir. Et puis, lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai voulu enlever le côté trop noir. J'ai fait une purée en plus. Comme je venais de terminer les enregistrements de l'élu, j'étais encore, et je suis encore avec mes personnages de cette histoire de l'élu. Et j'ai pu m'en défaire. Malgré moi, ils sont revenus, entrés dans cette histoire. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ils sont toujours là. J'aurais dû changer l'époque et les faire passer en 1920 ou 30. Mais là, j'ai toujours Gilbert, Julien, Nathalie, Judith, etc. Et pour moi, ils sont plus vrais que mes nouveaux héros. Et je ne veux pas qu'ils prennent trop de place. Que faire? Bien centrer l'histoire sur les deux personnages. Les suivre pas à pas et oublier les autres. Mais comment? Ils sont pas assez. Je ne les sens pas assez. Pourtant, il faut que j'y arrive. Le sujet est bon, peut-être trop noir et pas écoutable pour tous. Mais je n'écris pas pour les enfants de cœur. Et puis même, les enfants de cœur connaissent le diable. On leur en parle sans arrêt. Ce n'est pas facile d'écrire cette histoire. Je suis pris entre cette histoire que j'ai écrite il y a 20 ans, celle que j'ai écrite, l'ai lue, et que je n'arrive pas à en sortir. Pourtant, c'est un bon sujet. Mais dur, très dur. Comment intéresser les gens pour une histoire aussi noire, sordide, où il n'y a pas de bons héros? Comment les gens peuvent-ils s'intéresser à des scènes si horribles, même si c'est dit des fois avec humour? Voilà le problème à résoudre au jour le jour. Parce que j'écris par semaine entre 200 et 250 pages, 7 jours sur 7, et je termine le dimanche vers les 15 heures. Une fois que j'ai fini ma semaine, j'ai envie de dormir, mais je ne peux pas. Je suis très énervé. Il faut que je marche, bouge. C'est ce que je fais, et écouter de la musique. Je veux faire le vide en moi. Ce n'est pas facile. Et je me dis, lundi matin, c'est-à-dire dans quelques heures, une nouvelle semaine va commencer. Va commencer. Et il va falloir continuer à écrire. Des fois, j'ai envie de tout arrêter et de me reposer. De dormir. Dormir. Oui. Mais je ne peux pas. J'ai trop peur de perdre mon temps. Et à mon âge, ça compte. Les minutes comptent. Alors, le temps a passé. Je commence à m'en rendre compte. Par exemple, lorsque je suis dans un groupe de personnes à parler entre nous, je m'aperçois très vite que les gens avec qui je suis ne font plus attention à moi et ne m'écoutent pas. Je n'existe déjà plus pour eux, effacé déjà. Je dois avouer, c'est que ça me fait mal, surtout de se dire que c'est parce qu'on est vieux et laid, et que c'est comme ça qu'on s'en va tous. Ils vous trouvent bêtes, laid, dépassés. Alors, on se rend compte de la différence qu'il y a entre nous et les jeunes. Ça fait mal. On a beau se dire que notre temps a passé, qu'il faut céder la place aux autres, c'est dur. Puis, on a peur de ragoter, de dire toujours les mêmes choses, les mêmes critiques. Ça vous fait mal de voir que ce qu'aiment les jeunes, vous ne l'aimez pas, et que ce que vous aimez, ils ne l'aiment pas. Des fois, les discussions avec les jeunes s'arrêtent d'un coup, vous laissent tomber parce qu'ils trouvent que vous êtes pour eux, d'un autre monde, le monde des ringards, des cons qui ne comprennent rien. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une discussion avec une jeune fille qui était aux Beaux-Arts. Entre parenthèses, je me demande pourquoi. Et qu'est-ce qu'elle va y faire? Car elle veut apprendre aucune technique et s'exprimer de suite. J'ai voulu lui faire comprendre que, par exemple, une personne qui veut composer de la musique doit savoir son solfège. Elle s'est sauvée en courant, sans rien dire, tant cette idée était contraire aux siennes. Le moindre effort. C'est vrai, cette histoire, et cette jeune fille était à la radio. La jeunesse veut très vite faire des choses sans apprendre, parce que c'est fatigant et ça fait perdre du temps. Ce qui fait qu'il crée les choses comme le fait un nouveau-né d'instinct. Comme le nouveau-né fait de la musique sans le savoir en tapant avec une cuillère ou fait du dessin en gribouillant sur un papier. Sortent des écoles de cinéma. Ils ne font que des films politiquement corrects, gauche caviar, qui parlent de toute la société et du peuple, etc. et sont nuls d'une façon technique. Une femme metteur en scène ne savait même pas qu'il fallait dire moteur action. On a un brouillon de sujet qui sert à l'avance sur recette. Et au fur et à mesure que le film se fait, le sujet a disparu. Ceux qui donnent l'avance sur recette ou autre aide devraient demander des comptes. Si on demande une aide pour faire un pont ou un bateau, et que cette aide sert pour une maison, celui qui a demandé cette aide a un procès et doit rembourser. Pour le cinéma, ce doit être la même chose. C'est l'argent de nos impôts, non. Pour direct et indirect. Surtout que les films dont les Français payent avec leurs impôts, taxes télé ou abonnements, et bien entendu billets de place de cinéma, etc., la plupart de ces films payés par l'ensemble des Français ne sont vus presque par personne parce qu'ils ne plaisent à personne. Ce procédé d'aide n'est pas juste. Et pour aider ceux qui s'expriment par le cinéma, mais n'est pas juste, il faudrait aussi faire des films, au moins les trois quarts, qui plaisent à ceux à qui on impose de payer. Le contribuable qui est public doit avoir lui aussi droit à la justice d'avoir des films qui lui plaisent. Ne pas faire plaisir qu'aux metteurs en scène, critiques et producteurs. Parce que le producteur lui aussi est devenu comme les autres et le politique pour lui Le public, pour lui, c'est la critique et le tout Paris. Vive le cinéma pluriel pour tous, vive le cinéma populaire. Encore une chose que les jeunes ne comprennent pas, une culture pour tous. Pour eux, ils ne veulent pas d'une culture pour tous. Ils veulent une culture que pour eux. Le reste, c'est de la merde, comme ils disent. Tous les artistes, chanteurs, etc., qui ont du succès, ne valent rien. Succès égale nul. Pourquoi ? Et un jeune qui ne connaît rien à la musique, qui tape comme un dingue sur une batterie, ce n'est pas nul ? Non, parce qu'il n'a pas de public. Voilà, ça suffit de divaguer sur toutes ces choses. Parce que vous allez finir par me prendre pour un vieux con. Année 2000, mauvaise année. Très mauvaise année pour moi. C'est l'année où j'ai rencontré le plus la bêtise humaine. Surtout où je travaille. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.